Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Maud. Donc t'es avec toi le 16e épisode de La Bonne Aventure. La Bonne Aventure, c'est une émission de podcast qui est enregistrée par la Slow Gallery et qui interroge les artistes le matin de leur vernissage. Donc on va parler de ton inspiration, de la genèse de cette exposition, de tes projets, de tout ce qui nourrit ton travail aussi. Et on accueille aujourd'hui donc une magnifique exposition de gravures à la manière noire. Ça s'appelle No Rock, ça commence ce soir et ça sera jusqu'au 30 avril. Donc bienvenue Maud et merci beaucoup d'être là.
Ben, merci encore une fois de m'inviter. Je suis vraiment très émue et très heureuse d'être là.
Merci Maud. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, Maud Gironet, qui es-tu ?
Eh bien, donc je fais de la gravure. J'habite et je travaille à Reims, à l'atelier Hyperespace. La gravure, j'ai découvert ça à l'école Estienne. À la base, je me destinais plutôt à une formation d'illustration. Et j'ai découvert la gravure là-bas, vraiment. Ça a été un coup de cœur, vraiment une rencontre. Et en sortant de l'école, j'ai eu la chance aussi d'être acceptée comme assistante d'une graveuse rémoise qui s'appelle Marie-Christine Bourvenne, qui m'a accueillie dans son atelier et où j'ai pu continuer de développer ma pratique.
Et alors là, c'est une technique de gravure très particulière dans laquelle en fait tu t'es plongée, qui s'appelle la manière noire.
Oui.
Alors, on sait à combien il faut de patience et de virtuosité pour pratiquer cette technique. Tu peux nous l'expliquer en quelques mots ? Qu'est-ce que c'est que la gravure à la manière noire ?
Alors, c'est un procédé qui existe depuis le XVIIe siècle, hein, je crois, et qui consiste à grainer la surface de la plaque avec un outil qui s'appelle un berceau. Ça ressemble un peu à une petite pelle en métal, mais avec des dents. Et on va faire un mouvement de balancier, d'où le nom berceau, parce qu'on va bercer de manière très répétitive sur la plaque l'outil et creuser comme ça des petites trames en pointillés. Alors on va le faire dans tous les sens, dans toutes les directions pour resserrer la trame et créer vraiment un pointillisme en creux très uniforme. Une fois ce grain obtenu, on va le poncer par endroits pour que l'encre accroche moins et crée des dégradés, des contrastes et fasse apparaître des motifs. J'espère que c'est un petit peu... C'est clair. Moi, c'est très clair dans ma tête.
Oui, après, il faut le voir faire aussi, hein, je pense.
Exactement.
C'est pour ça, là, c'est pour cette exposition, tu as ramené certains outils, tu as ramené une plaque, d'ailleurs,
oui.
Travailler. Et d'après ce que tu dis, on comprend que ça prend... C'est long, en fait. C'est vraiment dans l'esprit slow, là, la gravure à la manière. Je pense que c'est la plus longue technique parce qu'il faut préparer
oui.
la plaque.
Oui, oui.
Pour l'exposition que tu présentes ici, la préparation d'une plaque te prend à peu près combien de temps ?
C'est dur à estimer parce que j'évite de bercer pendant trop de temps.
C'est tellement joli l'expression.
Merci
déjà.
Disons que j'essaye, je m'étais même mis un petit post-it, berce 2 heures par jour. Et une plaque, je pense que ça peut prendre 10 heures, une plaque 10 par 15 par exemple. Et voilà, après,
parce que
je triche un petit peu.
Tu la berces, mais après il faut la travailler une fois
oui.
qu'elle est...
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ça va dépendre aussi. Disons que je ne vais pas avoir une pratique de puriste à aller à fond dans la manière noire. Des fois, j'épargne des zones qui vont rester vraiment blanches. Des fois, je laisse des trames plus fines pour avoir une texture. Ça dépend vraiment. Les gens qui vont venir regarder les gravures de près vont voir des fois cette trame apparaître, par exemple. Et puis voilà.
Donc rien que de bercer, comme l'expression, c'est vrai que c'est vraiment joli, bercer la plaque, c'est une temporalité dans la préparation de l'œuvre. Et ensuite, il faut effectivement, comme tu disais, poncer oui. les endroits où tu souhaites voir surgir la lumière. Ça s'appelle la manière noire pour ça, parce que c'est du
voilà.
noir d'où vient
Exactement.
La lumière.
En fait, si on imprimait la plaque telle quelle, une fois le grain obtenu, on aurait une immense tache noire très profonde, très veloutée. Alors moi, j'imprime en couleur, évidemment.
Alors ça, c'est vraiment une spécificité aussi.
C'est vraiment
aussi.
Ma spécificité, oui. D'ailleurs, c'est la manière noire, oui, quand on regarde, là je regarde l'exposition, il y a beaucoup de couleurs, je voulais que ça flamboie vraiment. Mais oui, il y a quand même une densité, un contraste vraiment absolu, c'est pour ça que j'ai choisi cette technique. Je voudrais juste rappeler, la gravure, en fait, c'est le principe du multiple, d'imprimer à partir d'une matrice. C'est grossièrement le principe du tampon, hein. On a des creux et des reliefs, on va jouer là-dessus pour accueillir l'encre et par pression transférer le motif sur du papier. Et petite précision, bah, ça permet aussi de créer des éditions limitées et de permettre à tout un chacun d'acheter une estampe sans forcément acquérir un original. Ça, c'est très important pour moi, de permettre de diffuser comme ça... Mon travail.
Alors, c'est peut-être pour ça que tu t'es dirigée plus vers la gravure que
je
ça aurait
pense.
Pu être le dessin, tout simplement, pour que tu puisses l'avoir, le rendre plus accessible aussi. pour que ton œuvre soit plus accessible.
Alors, c'est vraiment les effets picturaux, moi, qui me plaisent énormément dans la technique. Et puis, on en parlera peut-être plus tard.
Il y a tellement de choses à dire.
La magie de la technique.
Oui, parce qu'effectivement, l'exposition, donc, elle s'appelle Noroc. Oui. Noroc, c'est un mot roumain qui veut dire à la vôtre, ou chin, ou voilà, bonne santé, enfin voilà. Est-ce que tu peux justement nous raconter cette exposition, d'où elle vient, comment elle est là, qu'est-ce qui l'a construite ?
C'est vrai que dans les parcours artistiques, on a toujours des rencontres un peu imprévues et insolites, et ça en fait partie pour moi. On m'a proposé de faire partie d'un cycle de résidence européenne dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Nectar et qui réunit des régions viticoles, des GAL, des groupes d'action locales.
Donc, oui. Il y a débat.
Je ne sais pas comment, bref. Et donc autour du vin, des savoir-faire, et les artistes amènent un regard sur ces régions-là. Donc pour commencer, les rencontres se sont déroulées en France, à Uzès et dans l'Aube, dans la Côte des Bars. Et la dernière étape, c'était donc en Roumanie. Là-bas, on devait réaliser une fresque tout en rencontrant évidemment des artisans, des viticulteurs. C'était très très riche, très intense.
C'était l'art et le vin, le thème.
L'art et le vin. Mmh. Et en revenant, j'avais envie de continuer à développer ce que j'avais vu sur place parce que ça avait été très court. En plus, il y avait encore le Covid qui sévissait. Nous, on était vaccinés, il n'y avait pas de souci.
Donc
mais
en
là-bas,
2020
2021. Oui. Fin 2021. Mmh. Et nous, on est arrivé quand le pays se recloisonnait encore puisque là-bas, le vaccin était encore un petit peu difficile d'accès. Donc, on est arrivé dans un pays qui était silencieux, muet, cloisonné. Tout ce qu'on n'avait pas anticipé. Nous, on voulait faire la fête avec les gens sur place, vraiment échanger et tout ça. Donc, mais ça a quand même été très riche et très intense, évidemment. Mais on a dû un peu changer nos plans, s'adapter à cette situation. Et malgré tout, on a rencontré de très belles personnes, de très belles institutions. Et une fois revenue à Reims, j'ai digéré un petit peu tout ce que j'avais vu. Ça a été assez rapide.
C'était une semaine.
Une semaine. Et je me suis dit, bon, je vais sortir quelque chose de tout ça. En plus, le dernier jour, l'un de nos hôtes, Marianne, m'a dit, alors je ne vais pas le redire en anglais, mais en français, il a dit une phrase qui résonne encore en moi, que la manière dont je voyais son pays le faisait voir beau aussi. Ça m'a tellement touchée à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais vraiment lui montrer ce que je vois, moi, toutes les couleurs, toutes les traditions, tout le folklore, parce que toutes ces maisons un petit peu byzantines, ces influences, ces couleurs, vraiment la Roumanie est un pays pour moi de couleurs. Quand on arrive, il y a vraiment toutes ces palissades, ces décorations, ces textiles. Encore une fois, pour moi, c'était un petit tourbillon et je voulais vraiment le retranscrire avec la manière noire. Donc peut-être que je triche un peu, mes couleurs, elles sont peut-être pas totalement celles d'origine, mais c'est en tout cas moi mes ressentis.
Bah là, dans la série de gravures qui nous entourent, effectivement, il y a c'est flamboyant et c'est ce qui rend cette exposition exceptionnelle, c'est l'explosion de couleurs, parce que la manière noire, c'est souvent ce qu'on en attend, c'est des dégradés de gris, de noir. Et là, il y a tout le. Et puis, il y a ce duvet velouté. Et dans chaque gravure, en fait, on a l'impression que tu t'es vraiment abandonné à cette sensualité de la couleur. Et on plonge dans les paysages. Alors, tu parles des petites maisons. Alors, il y en a beaucoup que tu as représentées avec les petites assiettes ou les coquillages qui les décorent.
Oui,
avec
ça, tellement c'est le village d'Oretsu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'ils ont un savoir-faire de céramique vraiment très local. Et donc, les artisans l'affichent fièrement sur les maisons. Les assiettes, elles sont placardées. Pour moi, il y avait un rendu presque minéral de la ville avec les couleurs et les assiettes qui faisaient un peu un effet coquillage presque.
Oui, on dirait un conte en fait. On a l'impression d'être dans cette exposition. Aussi, la transposition émotionnelle que tu as mis, on a l'impression d'être dans un conte, de passer de gravure en gravure, de paysage en paysage. Alors, les paysages sont fabuleux, ils sont plongés dans une forme de brume. C'est donc les Carpates.
Oui, c'était au sud des Carpates, dans le comté de Valcea, principalement dans la ville de Machuca, mais plutôt à l'ouest du pays, du coup.
Donc la nature est omniprésente, elle vous entourait, elle était là partout.
Oui, et puis en plus, on a eu la chance de partir à l'automne, donc les forêts étaient rougeoyantes. Vraiment un superbe conte des Carpates.
Et oui, alors tu parlais aussi de cette ambiance qui laissait, enfin on a envie de croire aux contes et légendes de la Roumanie, Dracula, le comte Dracula. D'ailleurs, tu as représenté une petite miniature du comte Dracula où il est tellement coquin et mignon en fait.
Oui, parce que je ne l'ai pas rencontré, Dracula, je l'ai cherché. J'ai cherché les fantômes et tout, il n'y en avait pas. Par contre, comme c'est quand même un fleuron de la culture roumaine, il est représenté sur des objets très touristiques, notamment des alcools de prune Vlad Tepes, c'est le vrai nom du comte, et c'est de la tuica.
Et c'est bon ?
J'en ai pas goûté parce que quand on voulait en acheter, nos hôtes nous disaient ah non, mais on a des meilleurs alcools que ça, puisqu'encore une fois, c'était quand même une résidence sur le thème de la viticulture, des vins et aussi des liqueurs. Et certains nous ont fait goûter leur palinka.
Alors c'est bon ?
C'est très bon. C'est très très bon. Non, c'est vrai qu'on a un peu bu aussi pendant le séjour.
Oui, je pense que vous avez bien mangé aussi.
On a
parce
bien festoyé.
Il y a un petit coin, il y a un mur qui est dédié à la... il y a trois gravures où il y a des énormes brioches au sucre que tu as représentées qui dégoulinent de crème.
Oui, alors des fois, c'était à outrance. Le premier repas, je m'en souviens encore, on n'en pouvait plus. Et arrive le dessert, donc les papas nazis.
Qui sont là,
pas des nazis,
juste derrière eux.
Ça ressemble
qui sont
à
plus
des
vrais que nature.
Mais en fait, ça n'est pas du tout ça. Et il y en a deux, c'est forcément par deux. Des énormes... Donc il faut imaginer des énormes religieuses, mais pas du chocolat sur la garniture de la crème et plutôt des confitures de baies, de myrtilles. Sauf que le chou, en fait, c'est plutôt chou rose, frit, et à l'intérieur encore du gras, du sucre. Et ils sont par deux, et quand j'ai dit non, mais peut-être que je ne vais pas prendre de dessert, on m'a dit non, c'est pas possible, tu prends le dessert.
Arrosé d'un alcool de prune.
Oui, on s'y fait, hein. On s'y fait.
Ouais, oui.
Je sais pas comment, mais...
Oui, oui, la nature est bien faite, on se fait à tout. Hein.
Oui, oui.
Donc là, ouais, c'est une très jolie représentation, c'est une très jolie gravure qui est très gourmande, en manière noire quand même, ça c'est du luxe. Hein.
Oui.
Et alors après, dans ces paysages, est-ce que tu peux nous les décrire ? Est-ce qu'il y a une gravure ? Il y a les Carpates dorées, là, vraiment, c'est tellement... Moi, c'est peut-être ma préférée.
Ah oui.
Ben, je trouve qu'elles sont toutes très belles, mais cette petite maison qui s'abrite à l'orée d'un bois qui flamboie de doré, là, c'est...
Alors ça, c'était sur les derniers jours du séjour, où on visitait des monastères, des superbes monastères entièrement peints à l'intérieur. Et donc, toute la journée était baignée comme ça, dans une ambiance un peu mystique.
Oui, c'est ce qu'on ressent beaucoup. Hein.
Et j'avais vraiment envie de la retranscrire aussi dans les paysages qui environnaient les monastères. Et c'était très jaune, très doré.
Donc c'est la couleur de l'automne aussi que tu as
raconté. Oui, complètement.
Et c'est vrai qu'il y a des gravures sur les paysages, sur cette forêt des Carpates qui entourait ta résidence, et il y a des petites maisons, et il n'y a pas beaucoup d'humains. Est-ce que c'est lié au fait que c'était le Covid, et donc il n'y avait pas grand monde dehors, ou bien c'est l'ambiance de la Roumanie où les gens sont très se recueillent un peu chez eux, ou ne sortent pas beaucoup ?
Alors il y a plusieurs réponses à ça. Oui, les gens étaient assez reclus, forcément, même à la campagne, pour respecter le confinement. Mais nous, on était quand même avec une équipe et entouré de gens et d'artistes. Les artistes français, par exemple, il y avait Cyrielle Tassin et Souhait d'honneur, un street artiste du Sud. On a vraiment fait une petite équipe très joyeuse. Mais de toute façon, dans mon travail, je représente rarement la figure humaine. Peut-être parce que toutes ces couleurs et tous ces paysages, c'est peut-être une métaphore aussi des gens. Ce que j'ai montré là, les paysages, pour moi, c'est aussi les gens. J'ai voulu mettre l'âme du séjour, l'âme des gens que j'ai rencontrés. Et dans toutes ces couleurs-là, ça se retranscrit. Mais il y a quand même une petite figure humaine, c'est Andreas, le fils de Marine, un peintre local, qui était venu aider son papa à nous aider sur des fresques. Et à un moment donné, il a voulu prendre un cours d'équitation un petit peu plus haut dans le village. Et son papa m'a joyeusement invité à les rejoindre, parce que ça me faisait envie. Et j'ai eu la chance d'avoir moi aussi mon petit cours d'équitation sur Indiano, le magnifique cheval blanc, brun, bleus.
Ah oui ?
Oui, il avait les yeux bleus.
Wow.
Ça se voit pas parce que la gravure est trop petite. J'ai failli faire un portrait d'Indiano en plus grand, mais j'ai pas eu le temps.
Donc c'est lui, c'est le petit garçon. Ce petit garçon sur ce cheval, c'est la seule représentation humaine de ton exposition. Elle est vraiment ravissante. On se croirait presque en Camargue, en fait, avec le bleu turquoise que t'as mis derrière, le dégradé de bleu.
Mais comme je te racontais hier, j'ai essayé un peu de tirer les vers du nez de mes hôtes en leur demandant s'il y avait des légendes locales, des fantômes. Alors si, il y a une légende de dame blanche dans un bois, c'est dans le bois fantôme justement qui est très rouge avec les arbres blancs qui sont les apparitions.
Ah, c'est cette gravure-là, donc une dame blanche...
Oui, paraît-il. Je
devrait
pas
apparaître
trouver.
Peut-être un jour ici, hein, pendant l'exposition.
Tu crois ? Peut-être, tu me diras. Et pour en revenir du coup à la gravure Andreas et Indiano qui est très marine, son papa, en lui demandant du coup des légendes, tout ça, me parlait plutôt, lui, vis-à-vis de ses recherches personnelles sur la mer Noire qui borde la côte Est. Et la pensée, en fait, que peut-être l'Atlantide serait immergée dans ces zones-là, parce qu'il y a des restes archéologiques qui l'indiqueraient. Donc, il me parlait tout ça, et moi, je voyais la mer, je voyais des cités perdues. Et...
Ça a influencé ton dessin, du coup.
Je m'en suis rendu compte, en fait, en choisissant mes couleurs et en voyant les estampes sortir, que ce bleu très profond, très marin, peut-être que c'était ça qui avait dicté mon choix.
Oui, inconsciemment, ouais, sans doute, parce que c'est vrai que là, elle sort un peu du contexte. Elle est très lumineuse, alors que les autres gravures sont plongées dans une forme de brouillard lumineux aussi, mais on sent quand même une forme de sfumato, mais qui est aussi liée à la technique de la manière noire,
oui,
que t'aimes tant. C'est ce que tu recherches aussi comme effet de
velouté. Ce flou, un petit peu, ce flouté, oui. Oui, oui. C'est vrai qu'on est toujours tenté, en plus, quand on s'appuie sur des photographies. Moi, c'était mon cas. J'avais fait des croquis, mais j'avais beaucoup de photos. À un moment donné, il faut aussi... savoir s'affranchir de la réalité photographique, du détail, pour aller chercher plus dans des émotions intérieures. Et la gravure permet ça. Donc le flou, j'essaye de l'accepter, mais c'est aussi une forme de résilience, de quitter comme ça le perfectionnisme, le réalisme et d'aller dans des choses.
Mais c'est ce qui te plaît, je pense, parce que tu racontais un peu aussi que la manière noire, pour toi, c'était la seule façon d'obtenir ce côté velouté, cotonneux, un peu des formes.
Oui, complètement.
C'est vraiment ça, c'est ta signature aussi à toi. Est-ce qu'il y a d'autres gravures sur lesquelles t'aimerais ajouter des commentaires? Par exemple, on parlait qu'il y a de l'absence de présence humaine, mais il y a ce feu quand même, où il y a des petites mains qui se dirigent vers le feu. Et qui,
Après, peut-être pour la fin... Mais c'est un peu émouvant, c'est l'arc-en-ciel, parce que même si c'est pas un arc-en-ciel, je t'en avais parlé, c'est pas un arc-en-ciel que j'ai vu pendant la résidence, c'est au retour. Il faisait très beau en Roumanie, et en France, il pleuvait tout le temps. Donc j'ai une amie qui est décédée, et il y a eu beaucoup d'arc-en-ciel, et donc ça, c'est un hommage, puisque ça s'est vraiment suivi. Et elle lui est dédiée, cette gravure. Mais si j'en parle, est-ce que je ne vais pas avoir la gorge qui se serre? Donc je ne sais pas trop. Mais elle est particulière pour moi. C'est pour ça que je l'ai rajoutée. Mais encore une fois, je ne sais pas si je vais réussir. Il faudra que j'en parle très vite. Et puis qu'après, je...
Ben oui. Parce qu'il y a plein d'émotions, effectivement, on sent dans cette exposition, même s'il n'y a pas de présence humaine, elle est partout. Elle est évidemment sur ce petit garçon, sur son cheval. Elle est sur toutes les petites mains qui se réchauffent au feu, ben sur l'arc-en-ciel, comme tu viens de dire. Et ça dégage une charge émotionnelle qui est forte. Et il y a ce monastère aussi,
oui,
qui est magnifique.
Ça, c'était le dernier monastère.
C'est une prouesse, d'exécution aussi, celle-là.
J'ai passé tellement de temps dessus, sur les petits Jésus,
ouais,
sur tous les disciples. J'en avais tellement marre. Et en fait, ce lieu, cette peinture, je ne pouvais pas ne pas la faire. Ce monastère, ses fresques intérieures étaient incroyables. On n'avait pas le droit de prendre de photographies, c'était assez frustrant. J'en ai quand même pris avec mon smartphone, très discrètement.
Grâce à ça, elle existe maintenant,
elle existe
en gravure.
Mais c'était très, très insolite, vraiment incroyable comme expérience, parce qu'encore une fois, on était en plein Covid, et rentrer dans ce monastère, les personnes embrassaient chaque icône tour à tour, y compris notre guide, et je me disais, mais c'est incroyable, ils ont tous peur, enfin ils essayent de préserver leur santé et la foi, les guides quand même à aller se recueillir, à embrasser chaque petite madone et petit ex-voto. Et puis il y avait ce prêtre qui balançait de l'encens ou je sais pas quoi. Enfin, tout d'un coup, j'étais comme dans une sorte de transe chamanique, les couleurs, les lumières.
Et ça se voit surtout chacune, c'est cette transe chamanique du coup qu'on
oui,
lit sur chacune de tes gravures. Il y a quelque chose de très mystique, mais qui fait aussi partie un peu de ton univers, Maude, ou pas, parce qu'on en parlait quand même hier. Même dans la technique de la manière noire, dans ce rapport à la plaque qu'on berce, ce rapport à l'œuvre, il y a une dimension très spirituelle.
Oui, en fait, très rapidement, en pratiquant la gravure, j'ai fait le rapprochement avec l'alchimie, que je trouve très intéressante d'un point de vue symbolique. L'alchimie, c'est donc ce qui consiste à transmuter du plomb en or ou en panacée, donc en remède pour la santé, et puis fabriquer le grand œuvre. Donc forcément, c'est une métaphore qui parle aux artistes. Et puis, donc moi, en gravure, je travaille avec du métal, du zinc, du cuivre, que je vais chercher à transmuter moi aussi, à sublimer. Et ça demande tellement de résilience, de recul sur soi-même, de patience, tout ce que l'alchimie requiert également. J'en ai jamais fait, hein. Mais si on lit un petit peu les traités philosophiques, ça parle que de ça, de résilience, d'endurance, de savoir accepter les échecs, de recommencer, et puis de travailler avec le temps. Et la gravure, c'est ça.
Oui, c'est important, j'ai l'impression, pour les artistes graveurs, d'avoir cette intermédiaire qui est la plaque et qui vous met en relation avec le dessin. Par rapport à un artiste qui peint ou qui dessine oui. directement sur le papier et l'œuvre est, vous, vous avez ce rapport avec un partenaire qui est la plaque, en fait, et qui guide votre travail, et vous ne décidez pas de tout, et beaucoup d'artistes graveurs disent...
Et la révélation, elle arrive vraiment qu'au moment où la plaque sort de la presse, où on se lève la petite feuille, on voit l'estampe.
Vous contrôlez pas tout.
On est en aveugle avant.
Voilà, c'est ça. Vous contrôlez pas tout. Le dessin, la plaque parle aussi. Vous êtes en fait en partenariat avec une... Enfin, en binôme, on va dire,
oui.
avec une plaque.
Complètement.
Qui s'exprime aussi, et ça rend modeste et humble, tu disais hier, d'être...
Oui,
de
oui, parce qu'on a
gravure.
Des intentions, forcément, quand on grave, quand on prépare des croquis, on choisit ses couleurs, et puis des fois, le résultat ne marche pas du tout. N'est pas à la hauteur de ce qu'on cherche à exprimer. Donc il faut chercher ailleurs, chercher peut-être à retravailler un peu, à changer les couleurs, ou peut-être que dès le départ, il y avait un cadrage ou quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais il ne faut pas hésiter à faire marche arrière et à recommencer. Après, dans la gravure, il y a des procédés qui sont très instantanés, que j'aime bien aussi des fois pour me détendre, comme le monotype, c'est de la peinture imprimée en fait. Et là, il y a plus d'instantané, mais il y a toujours cette magie du moment où la feuille se décolle de la plaque sur le plateau de la presse et où on découvre son travail imprimé.
Est-ce qu'on pourrait dire que la gravure, en général, c'est vraiment la résistance par excellence du monde dans lequel on vit
Je crois un peu, oui.
On te demande de produire vite, très vite, on te demande d'être hyper connecté, même où tout se numérise. La gravure, Maud, tu es en plein acte de résistance, en fait.
Je sais pas, je le fais naturellement, mais oui, je vois beaucoup d'inquiétudes aussi. Alors là, c'est peut-être un autre sujet sur les IA et le vol du travail des artistes en ligne. Moi, je me rassure en me disant que mes gravures sont concrètes, elles sont sur papier, et qu'une image virtuelle ne pourra jamais remplacer un objet réel, une texture réelle. C'est une sécurité dans ce monde, justement, où on avance avec la technologie et c'est un bienfait, mais on a aussi peur, des fois, de certains abus.
Bien sûr, le revers un peu du progrès, de toute façon, à chaque fois. Et là, en plus, quand tu disais tout à l'heure que les gravures, voilà, c'est aussi le monde du multiple, mais ce qui est remarquable chez toi, c'est qu'elles sont toutes différentes, en fait.
Oui,
en fonction
d'ailleurs, je m'excuse.
Oui,
parce
non,
qu'à chaque fois,
elles
c'est
sont
très compliqué
uniques.
De faire la mise en ligne.
C'est du multiple unique, parce que pour le même visuel, on va avoir des dégradés un peu différents, des contrastes différents, des aplats de couleurs qui peuvent un petit peu changer. C'est magnifique. Non, c'est plutôt très, très chouette, ça.
Oui, parce que du coup, en général, je numérote sur 50 exemplaires. Je n'imprime pas les 50 exemplaires en une fois, parce que c'est humainement un peu contraignant. Du coup, je fais plutôt des fournées, et il peut se produire un changement de couleur entre chaque fournée, parce que je l'ai décidé ou parce que j'arrive plus à retrouver une teinte que j'avais fabriquée. Je ne prends pas forcément les couleurs sorties du tube. J'utilise des encres charbonnelles très grasses, très lumineuses. Mais oui, ça va dépendre un petit peu de mes fournées.
Et tout à l'heure, tu parlais de références aussi, d'artistes qui t'inspirent. Tu parlais de Catherine Meurice. Est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots sur les artistes vivants ou pas, hein, qui sont à la source de ton
Catherine
inspiration ?
Catherine Meurice, elle m'émeut énormément. Chacun de ses livres, de ses romans graphiques, je les dévore. Elle a fait beaucoup de résidences aussi, à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Elle s'est ressourcée, enfin pas tout de suite, ça a été quelques mois plus tard, mais elle s'est ressourcée lors d'une résidence à la Villa Médicis ou au bord de la mer, et elle le raconte dans la légèreté, et c'est tellement inspirant et ressourçant, vraiment, je conseille ses lectures aux gens. Puis elle a un travail autour de la couleur qui est tellement admirable, moi qui m'inspire. Après... Moi, je trouve qu'elle s'inscrit plutôt dans la tradition des images flottantes à la japonaise, à l'ukiyo-e, alors que moi, je cherche plutôt à absorber les gens avec mes manières noires, à les faire rentrer dans le motif, dans le papier, dans mes petits univers. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes intentions, mais oui, son travail est tellement poétique.
Mais toi, dans ton travail, la manière noire, effectivement, il y a forcément un mystère qui se dégage de tes gravures, par la technique et par l'effet visuel que ça rend. Il y a un côté magie, mystique, mais pour tous les sujets, parce que tu as des sujets très vastes. Là, c'est sur ta résidence en Roumanie. D'ailleurs, production hyper foisonnante, vu quand même c'est un séjour d'une semaine, tu as vraiment absorbé énormément de choses et tu l'as exprimé.
Et je n'ai fait que la moitié de ce que je voulais
faire. Ah oui, c'est incroyable de produire avec autant d'intensité, autant d'émotions après un séjour qui finalement a été relativement bref. Et
je pense que j'ai quand même une autre référence, tu sais, on en parlait hier, oui, qui n'est pas forcément dans le monde des arts visuels, enfin si, plutôt cinématographique, parce que je me rends compte que j'ai un peu une prédisposition à faire des choses très frontale, très symétrique à la Wes Anderson. En plus, j'écoutais beaucoup les BO de The Grand Budapest Hotel. Et je trouve qu'il a aussi une manière de capter des choses, de raconter, d'enchanter un petit peu, tout en ayant des fois des doubles lectures et des facettes plus sombres, que j'apprécie aussi.
Et il y a un artiste graveur aussi dont tu parlais, qui fait de la manière noire.
Une artiste,
de façon très réaliste.
Judith Rothschild, qui fait vraiment des manières noires d'une intensité incroyable. Si on veut regarder une manière noire dans toute sa splendeur, pour le coup, c'est vraiment une référence, avec des veloutés et vraiment des clairs-obscurs très, très puissants.
Mais de la manière noire en couleur, comme on présente aujourd'hui, comme tu le sais faire.
Je n'en connais pas.
Oui.
Je n'en connais pas. Je regarde un petit peu grâce au réseau, les hashtags, et je vois très peu de graveurs, graveuses pratiquer la manière noire.
Ça, c'est vrai déjà. Est-ce que justement le fait de mettre. La dernière fois, à l'atelier, tu m'as montré un artiste. On est allé regarder, c'est la manière noire très réaliste. Je pensais que c'était un homme, moi, mais c'était peut-être Judith Rothschild.
Ah, Mario Avati.
Oui, c'est ça.
Oui.
Mais c'est peut-être pas une référence pour toi, Mario Avati. C'est très, très réaliste, c'est très
pas
beau.
Forcément,
mais
c'est vrai que quand j'ai vu ces estampes en vrai au Paris Print Fair, j'ai été assez estomaquée par la beauté des rendus, des couleurs. Alors lui, il travaillait, parce qu'il est décédé. Il travaillait, je pense, en plusieurs passages, alors que moi, j'ancre tout en une fois.
D'accord. Ça veut dire que c'est dégradé, c'est en une fois tu me places toutes tes couleurs.
Oui. Et du coup, j'ai vraiment un travail assez sensible quand je vais faire l'essuyage des couleurs, parce que quand on essuie les encres à même la plaque, on fait des petits gestes circulaires avec des boules de tarlatane.
Les poupées.
C'est une sorte de gaz.
Les poupées.
Les poupées. Alors, les poupées, c'est plus pour ancrer et les boules, c'est pour nettoyer, essuyer. Voilà. Et puis, on termine à la main qui est vraiment l'outil. Donc, tous ces gestes-là, ils ont tendance à forcément mélanger un peu les teintes. Et moi, j'essaie de garder des zones, des nuances bien précises, spécifiques. Juste, j'ai quand même deux gravures qui ont deux passages. Une gravure de monastère, celle dont on parlait tout à l'heure avec les fresques peintes, parce que la première version avec un seul passage me semblait bien en termes de richesse de couleurs, mais je n'avais pas l'ambiance mystique. Donc j'ai imprimé un premier passage en monotype, donc peinture imprimée, avec du jaune, du rose, du bleu, pour avoir une ambiance un peu mystérieuse. Et par-dessus, j'ai imprimé la manière noire avec les motifs plus spécifiques des fresques. La deuxième, ça va être la tasse que j'ai ramenée de Roumanie, que j'ai achetée dans une brocante. I love Roumania. Et du coup, c'est rouge
très
et noir.
Très jolie petite tasse, ouais. Qui est vivante. Elle est vivante.
Ça nécessite du coup deux passages pour avoir vraiment les couleurs de la tasse et puis en même temps les ombres plus froides.
Mais ta palette de couleurs, elle est tellement belle. Tu la prépares à l'avance ou est-ce que tu y réfléchis, tu fais des tests ou bien tu te lances comme ça un peu à l'aveugle?
Quand je me lance en aveugle, c'est toujours un peu le bazar. Alors j'essaye, oui, de faire des petits tests avec des stabilos, des pastels sur du papier, voir comment je veux harmoniser tout ça.
Tu n'utilises pas l'iPad pour faire des tests couleurs? Non,
alors,
je blague.
Alors si, enfin, j'utilise Photoshop des fois pour me dire, bon là, ça ne va pas du tout. Et comment on peut basculer pour faire quelque chose d'un peu plus dynamique? Mais ça ne marche pas aussi bien que le concret, vraiment. Travailler avec mes pastels, mes craies, mes feutres, même des stabilos hein, pour avoir les luminosités. Et si je ne fais pas cette étape-là, je me rends compte que je perds un temps fou.
Alors, il y a une gravure qui s'appelle « La maison aux choux ».
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans cette maison aux choux, là?
Alors, pareil, dans le village d'Oretsu, avec un savoir-faire de céramiste.
Très belle façade verte de cette maison aux choux, ouais.
On est rentré, on a inspecté tout ce qu'il y avait à voir, et dans l'arrière-cour, alors une maison verte comme les choux, j'ai été assez interloquée parce que dans la petite cour, il y avait plein de choux. De toute façon, j'ai vu des choux tout le temps, partout. Et juste à côté, une magnifique plante de datura. Alors la datura, c'est une plante blanche magnifique, mais tellement toxique. Et elle est juste à côté, alors que tout est toxique dans cette plante, les feuilles, les fleurs. Je me suis dit, mais ils sont sont courageux, ils n'ont pas peur de, de faire des soupes un peu spéciales. Mais c'était tellement beau, toute cette verdure de végétaux, de murs.
Et la façade était vraiment verte comme
oui.
ça, ou c'est toi qui l'as imaginée?
Vous pouvez vérifier sur Oretsu, sur les
oui,
Google
parce,
Images.
Oui, parce que tu transposes plein de choses aussi. Enfin, tu modifies, enfin, tu retransposes en fait plein de choses avec les couleurs. Elles
ne sont
pas forcément
réalistes.
Et d'ailleurs,
il y a une graveuse que je suis sur... Si elle écoute le podcast, elle sera peut-être amusée de voir que je la cite. Julie Dailéden, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui fait des eaux-fortes très jolies, très poétiques. Et elle est partie en Roumanie cet automne et elle a pris en photo cette maison-là. Donc je dis, ah, Oretsu. Magnifique. Allez voir son travail, elle fait des choses très poétiques aussi.
Et le feu de bois, là où il flamboie réellement, en fait, la manière noire, ça donne aussi un côté très, très, très lumineux. Et là, ces flammes là, qui s'élèvent, il est tout petit ce feu de bois, mais en fait, il est immense par l'impression
oui.
qu'on en ressent.
C'était le feu de joie de la fin du séjour.
Il y avait plein de petites mains qui se tendent. Qu'est-ce que c'était votre feu de départ, en fait?
C'est ça. Nos hôtes avaient vraiment prévu une très belle fête pour notre dernier soir, qu'on a continué tôt le matin. Et ce grand feu était immense, bien plus grand que la gravure, mais je voulais vraiment représenter ce moment un peu de communion. On était tous autour du feu et déjà être nostalgique alors qu'on était encore ensemble, tous ensemble, mais on était autour de ce feu et c'était tellement beau. Et voilà, les flammes jetaient comme ça plein de couleurs sur le paysage aux alentours. Normalement, ça aurait dû être une fête de village avec des costumes, plein de choses. Et nos hôtes étaient vraiment désolés, encore une fois, qu'à cause du Covid, tout soit annulé. Mais on a quand même passé des moments super et tellement drôles.
Chaleureux.
Voilà, c'est cette
super accueil.
Je suis vraiment contente de l'avoir faite parce qu'elle retranscrit vraiment toute l'amitié et toutes les émotions.
Oui, toute la chaleur humaine, parce que c'est vrai, comme on disait, c'est beaucoup de paysages ou de maisons où la présence humaine n'est pas révélé
voilà.
très rarement. Et là, malgré tout, de cette expo, il y a beaucoup de beauté et beaucoup de chaleur aussi. Et c'est un sublime hommage à la Roumanie, vraiment. On ne se figure pas trop. En tout cas, en ce qui me concerne, la Roumanie, à part évidemment les contes de Dracula, tout ça, quand
voilà.
on n'y est pas allé, il y a les Carpates, il y a le mystère de la forêt des Carpates. Mais là, tu nous emmènes.
Il y a le Danube aussi,
oui,
qui est à l'est.
Oui, c'est vrai.
Mais
tu nous emmènes dans un super voyage. Ils doivent être fiers quand même. Disais que tu allais leur...
Ils m'envoient beaucoup de messages de soutien.
C'est vrai.
J'espère ne pas les décevoir.
Il y a ce paysage aussi avec des sculptures assez mystérieuses, une main tendue vers le ciel, un visage. Qu'est-ce que c'est ?
Complètement insolite. Bah, du coup, le village où on était hébergé, Machuca, a quand même une spécificité, un festival autour de la sculpture. Donc, beaucoup de sculptures un peu art brut, naïf. Et c'était très insolite. Nous, notre résidence était plutôt en hauteur, mais pour rejoindre la mairie et puis l'endroit où on travaillait avec les artistes, on devait traverser une sorte de petite colline avec toutes ces sculptures blanches. Je les ai réunies, la vue est du coup est fausse, mais j'ai voulu les avoir dans un seul plan. Sinon, elles sont plus dispersées. Mais ils en ont tellement, c'est à se demander. Donc ils en mettent au rond-point et partout. Mais là, dans Machuca, il y avait toutes ces sculptures qui peuvent être figuratives, complètement abstraites, géométriques, blanches, qui ressortaient sur le paysage. Et puis autre chose aussi, je ne montre pas beaucoup de présence humaine, mais il y avait beaucoup d'animaux, des animaux sauvages. Donc quand on traversait ce jardin de sculptures, il y avait plein de chiens errants qui attendaient qu'on leur balance un petit casse-croûte, parce que vu qu'on avait trop à manger, on essayait de faire des doggy bags, vraiment des doggy bags, puisqu'on balançait tout aux chiens, en cachette évidemment pour pas froisser nos hôtes. Et ces chiens attendaient par meute pour qu'on arrive, presque comme domestiqués, puisque du coup ils ont l'habitude d'être nourris par les gens.
Il y a un petit chat aussi là sur le rebord d'un toit, tellement mignon.
De chats. Ça c'était dans un musée du vin qu'on a visité. À un moment donné, je me suis un petit peu écartée pour faire ma petite balade à moi. Je me suis un peu aventurée dans des endroits qui étaient presque privés. Et dans une arrière-cour, il y avait plein de chats, dont ce chat qui m'a regardée un peu outrée.
Surpris.
Que j'arrive, que je surgisse dans son territoire. Ce petit musée du vin qui était très charmant. La directrice nous a fait la visite, était vraiment très, très sympathique, mais... Ça va, je vais en parler parce que c'est un autre aspect de la Roumanie que j'ai découvert. Ça reste un pays très marqué par l'occupation soviétique. Et chaque personne qu'on a rencontrée nous en a parlé. Alors c'était encore une fois une résidence de fin 2021. Mais ça a été un peu une claque pour moi parce que pour moi c'était une autre époque, vraiment révolue. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées nous ont avertis sur le danger que pouvait représenter la Russie et des ambitions d'un homme politique en particulier. Et toutes ces personnes ont été marquées, meurtries par l'occupation qu'ils ont subie pendant des décennies. Et cette directrice du musée du vin, elle a commencé par présenter avec passion son métier, son institution, et en faisant beaucoup de métaphores sur la vigne, le fait que le cep se développe et évolue avec des racines dans la terre, malgré la souffrance. Enfin, j'ai plus la métaphore complète en tête, puis au bout d'un moment, on a compris qu'elle parlait de son pays aussi, qui avait dû s'arracher, s'émanciper, et puis se reconstruire, recréer une identité qui avait été complètement effacée et dissolue. Et je voulais parler de ça dans l'exposition, d'ailleurs, montrer des immeubles et des architectures soviétiques, parce qu'il y en a beaucoup, notamment dans la capitale. J'ai pas réussi à savoir par quel angle aborder ça. Ça fait partie de l'histoire de la Roumanie, mais c'est un peu dur aussi, notamment parce que maintenant il y a les conflits à l'Est qui vraiment ont sonné pour moi comme un rappel de tout ce qu'on m'avait dit là-bas. Et puis même une sorte de culpabilité d'avoir un peu, nous, pays privilégiés, on a un peu occulté tout ça. C'est vrai que moi j'étais un peu jeune quand il y a eu la mort de Ceausescu et tout ça, mais c'est quand même, ça fait partie de notre histoire européenne. Et je trouve qu'on l'a un petit peu mis de côté. Là, on a une piqûre de rappel un peu vive. Mais voilà.
Et du coup, en Roumanie, tu as ressenti ça, que peut-être les habitants, en opposition à ce passé douloureux, essayaient de retrouver un peu leurs racines, le réconfort aussi de leur tradition.
Mais c'est vraiment à vif, parce que le titre de l'exposition, Noroc, reprend le lettering que j'ai fait pour une des fresques, pour la fresque. Et à ce moment-là, dans les couleurs que j'avais, j'avais choisi du rouge parce que je trouvais que c'était bien pour le vin, la chaleur, tout ça. Et on m'a dit « Ah non, essaye de trouver une autre couleur ». Donc j'ai quand même dit « Je veux du rouge ». Mais alors j'avais commencé à faire à l'intérieur du lettering des petites étoiles et on m'a dit « Ah non, mais par contre, tu ne fais pas d'étoiles rouges ». Mais c'est pour la blague, moi, je suis complètement à l'ouest. Je faisais ça, j'étais dans mon petit truc. Et voilà.
Et oui, c'est toi qui as fait la typo de Noroc, qui est très belle, c'était l'objet de ta résidence. Mais on ne la ressent pas effectivement dans cette exposition, cette souffrance et ces souvenirs douloureux. Et puis en plus, cette hantise, peut-être que ça se reproduise en fait.
Complètement d'ailleurs, là je pense à eux avec tout ce qui se passe, mais bon.
Mais parce que tout existe en fait, tout est dans la vie, il y a effectivement tout est... J'imagine pour eux, dans leur quotidien, il y a à la fois cette douleur et en même temps la...
Bah, je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mais du coup, ils m'expliquaient que, contrairement à nous qui avons des coopératives qui aident les viticulteurs, bon, il y a des dysfonctionnements comme partout, bah, eux ont du mal à mutualiser du fait de cette blessure.
Ils ne veulent pas retourner dans les systèmes collectifs.
C'est compliqué. Mmh. En tout cas... Moi qui cherchais les fantômes, les vampires, bah à la fin du séjour, j'ai vu que j'avais découvert plein d'autres choses très intéressantes, notamment que les fantômes, finalement, c'était l'histoire du pays.
Ouais. Je voulais aussi relever, Maud, que donc, cette exposition, on voyage de paysage en maison, et que c'est donc l'issue d'un séjour en Roumanie. Si on prend un angle plus large sur l'ensemble de ton travail, parce qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années maintenant, on a l'impression que tout inspire et que tu sublimes à peu près tout ce que tu regardes.
Merci.
Et on a une série, on a commencé ensemble avec une série qui était plutôt botanique, de fleurs que tu avais représentées, qui étaient liées d'ailleurs, je crois, au métier de ton grand-père.
Oui, c'est un projet très fort. Je suis très heureuse qu'on ait fait notre rencontre avec ce projet-là qui était vraiment très personnel. Encore une fois... à premier abord, juste une série botanique de planches naturalistes de fleurs, mais en réalité un hommage à mon grand-père Jean-Marie Gironet, qui était dessinateur, expert fleurs anciennes pour des manufactures de papier peint. On m'a fait remarquer d'ailleurs que peut-être le multiple venait de là chez moi, du fait que mon grand-père créait des motifs pour des impressions répétitives. Et donc lui, sa spécialité, c'était les fleurs à l'ancienne, voilà, les planches du 19e, et par exemple les fleurs de Redouté, un aquarelliste. Donc tout est un clin d'œil à ça, parce que je me suis fait une petite banque d'images de son travail, et en fait mon grand-père est décédé bien depuis maintenant assez longtemps, mais on avait toujours voulu travailler ensemble, et malheureusement il est parti avant qu'on puisse faire un projet en commun. Et quand on m'a proposé à un moment donné à Reims de faire... des fresques en extérieur. Alors déjà, l'association Bronca, qui m'a invitée et que je remercie, Je leur ai dit, ben, moi, je fais pas de street art, hein, donc je vais réfléchir. Mais... Et je leur ai proposé ça, de faire un papier peint pour l'extérieur. Et donc, un hommage direct à mon grand-père. Brice m'a dit à l'époque, ouais, ok, on va faire ça. Donc, j'ai imprimé toutes mes fleurs. L'avantage de la gravure, c'est qu'on utilise des encres grasses, donc qui résistent à l'eau et donc aux intempéries. Et ensuite, je les ai collées un petit peu partout dans un quartier à Reims, le quartier Europe, avec une petite colle qui a vitrifié tout ça, et certaines sont encore en place.
T'as fleuri le quartier.
Voilà. Et les matrices, forcément, je les ai toujours. Je les ai éditées après.
Oui, oui. Et c'est, du coup, on en a quelques-unes encore voilà. À la galerie. Oui, des pensées, des chrysanthèmes.
Des dahlias, parce que j'adore les dahlias.
Oh là là, les dahlias sont magnifiques et puis ils sont tous différents. Ils ont une forme de magie et de mystère, en fait, qui émane de fleurs et aussi des architectures. En fait, tout inspire. On a des arcs-en-ciel, on a des séries de phénomènes naturels aussi, comme des aurores boréales. Enfin, les phénomènes naturels, la nature, on sent chez toi, en général, dans ton travail, une très forte connexion à la nature.
Oui, oui, complètement.
Qui fait vraiment partie de ton univers et de ta démarche, même expérimentale. Tu nous avais raconté que tu avais aussi créé des sortes d'œuvres éphémères dans des forêts.
In situ, oui.
In situ que des chasseurs avaient un petit peu gâché.
Oui, ça c'est pour une association pour laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, Maison Vide, à la campagne, qui fait régulièrement des projets en milieu rural pour les habitants et vraiment des très beaux projets. Et Anne-Sophie Velli m'avait invitée à faire une œuvre in situ dans les bois pour un parcours artistique. Donc j'avais gravé à même des troncs des vrais troncs vivants, c'était quand même des souches. J'avais gravé des organes vivants pour faire le lien avec des gouges, avec des burins, et je les avais ancrés avec mes encres. Et ben, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, les chasseurs sont passés par là, avaient essayé de tout cramer. Heureusement, c'était des souches en chêne assez dures à brûler. Mais, et puis ça rajoutait un petit côté. Mais,
oui, puis c'est un témoignage de notre société en même temps.
J'avais mis un cœur, un organe, tout ça. Je ne sais pas ce qui les avait choqués.
Ça devait être beau, Marie.
Mais oui, l'association Maison Vide a ce mérite-là de faire des choses en extérieur. Et heureusement, il y a beaucoup de gens du village qui sont fans et qui soutiennent le projet et qui participent. Et puis, il y a comme partout des détracteurs et des personnes qui sont moins sensibles. Mais en tout cas, tout le monde travaille à ce que ça change dans le bon sens.
Et tu as aussi créé un atelier, Maud, de...
Alors, pas toute seule. Hein. Oui. Oui, en fait, en 2012, j'ai quitté l'atelier de Marie-Christine Bourven qui m'avait accueillie à la sortie de l'école. Et avec des amis, Paul Rosé et Claire Brochot et Lorraine Allary, on a monté une association, on a monté un atelier à la base juste pour nous permettre de travailler sans avoir un loyer trop cher à payer. Et en fait, juste de la mise à disposition de matériel et de bureaux, on est passé à une association qui regroupait donc à la base 5 personnes, puis 10, on a dû déménager, et maintenant on est 18. On est 18 artistes, artisans, personnes qui travaillent dans le monde de la culture. Ça s'appelle l'atelier Hyperespace, c'est un très beau projet, je suis assez émue parce qu'on a renouvelé notre bail il n'y a pas longtemps.
Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans cet atelier.
Ça, c'est sûr. Une très belle personne que je salue. Et voilà, je suis très fière je suis la présidente actuellement de l'association. Je suis très fière.
Bah, longue vie à cette association.
Oui, j'espère.
Tu as des projets justement qui sont en train de couver ou que tu...
Oui.
Ou alors
oui.
Un projet rêvé
sur lequel tu te... Tellement.
Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu es en expérimentation permanente, en projet permanent. On dit que souvent les artistes sont artistes quand ils sont en renouvellement sans cesse, en fait, en expérimentation. Et toi, alors on ne peut pas te reprocher de ne pas l'être. Hein.
Oui, d'ailleurs, des fois, je me demande pourquoi je m'inflige autant de stress. Je me dis, j'arrête. Après, je reste dans des choses que je connais et que je sais faire, mais c'est... Après, on s'ennuie. Mais pour les projets à venir, j'ai fait une belle rencontre l'hiver dernier avec Jérôme Brabant, qui est scénographe et danseur. Et lui avait flashé sur une gravure qui s'appelle « Nos bouteilles à la mer », que vous avez aussi ouais. En stock. Je vais faire plein de parallèles, les gens vont être perdus. Mais qui est en fait une inspiration de mon collègue d'atelier, Éric Charpentier, qui est artisan relieur et plumassier, et qui a des petits cabinets de curiosité. Et il achète des fois des objets insolites, comme des bouteilles en verre repêchées au large des Philippines, avec plein de coquillages amoncelés dessus, et qui ont du coup mariné dans l'eau des déchets, quoi, qui ont mariné pendant des décennies avant d'être pêchés. Et j'en ai fait une collection qui s'appelle Nos bouteilles à la mer, inspirée de ces objets-là, vus dans son atelier. Donc Jérôme Brabant, je reviens à ça, si vous suivez toujours, désolée. Jérôme Brabant, le scénographe, a acheté la planche. Il est venu visiter l'atelier à la suite de ça et a vu que j'avais tout un travail autour des lunes, des planètes. Et lui, un spectacle qui sort en mai, qui s'appelle Planète, une très belle composition avec des danseurs sur les mouvements de l'univers. Et il m'a proposé de faire l'inauguration de son spectacle avec une exposition. Donc je vais me remettre dans les planètes, là. Dès que j'ai fini Nos Rocks, donc maintenant je peux partir dans les étoiles. Et je vais me lancer dans le cosmos pour début mai.
C'est trop beau, ça te va très bien.
En fait, ce projet, je l'avais vraiment fait en parallèle avec la danse. Je trouvais que le mouvement des astres, les révolutions, ça parlait aussi un peu de mouvement, de nos mouvements, changement de perspective. Et la citation que j'avais utilisée à l'époque, c'était une citation de Pina Bausch, « Danser, sinon nous sommes perdus ». Donc là, c'est un peu la boucle est bouclée. Je veux vraiment avoir des danseurs qui vont danser.
Et là, tu vas nous emmener. Alors, on a commencé avec un magnifique, oui. Des magnifiques planches de fleurs avec toi. Ensuite, on est allé vers des aurores boréales, des arcs-en-ciel. Il y en a. Tu en parlais tout à l'heure dans cette expo.
Oui. Les photos météores, c'est encore autre chose, toujours dans le ciel.
Oui, très belle. Oui. Et là, on est en Roumanie avec l'ambiance des forêts, des Carpates et des petites maisons aux vaisselles accrochées. Et là, maintenant, c'est vers les planètes. C'est sans cesse avec toi, tu nous emmènes toujours.
J'essaye en tout cas de ne pas parler que des phénomènes qui peuvent nous émerveiller très facilement, comme des aurores boréales. Des choses comme ça, et d'essayer de trouver aussi l'émerveillement dans des plus petites choses.
Oui, les objets du quotidien, des tasses, des théières. On a aussi à la galerie, tu nous en avais déposé, très très joli.
Le grog.
Oui, le grog, c'est une des premières gravures.
Encore de l'alcool.
Mais il y avait aussi cette gravure du cheval, là, un peu mystique aussi.
Oui, Habib, le cheval de ma tante Catherine.
Ah oui, c'est lui.
Il est mort maintenant, ça ne va pas être très gai, mais j'ai fait cette gravure de son vivant quand même. En fait, mes parents ont une petite maison dans le sud qui jouxte celle de ma tante, et elle avait un cheval qu'elle avait récupéré, un vieux cheval, mais très beau, un étalon blanc, Habib, qui était comme un petit chien. Il vivait un peu de manière sauvage puisqu'il était complètement apprivoisé, donc il pouvait être dans la montagne et si elle l'appelait, il arrivait en courant. Et des fois, il était très, très affectueux. Et quand on remontait de la maison de ma tante pour aller chez nous, il nous suivait, rentrait dans la maison, on n'arrivait plus à le sortir. C'était
Je ne connaissais pas cette histoire.
Une grosse bestiole. Oui, il n'avait pas conscience de son volume.
Mais des fois, il rentrait dans la maison ?
Oui, il rentrait dans la maison. Un cheval dans la maison. Mais il prenait tout le salon. Et pour le faire sortir, c'était incroyable. Et donc, Habib, il surgissait comme ça de la montagne, tout blanc, iridescent presque. Donc j'avais fait une photo où il était hors cadre un petit peu, sa tête cachée.
D'accord, c'est fou.
Et je l'avais fait en manière noire. Il n'y a pas longtemps.
À chaque fois que tu dis manière noire, on peut penser que c'est sombre. Et en fait, cette gravure de Habib, c'est pareil. Hein, parce que
la lumière ne peut pas exister sans l'ombre.
Exactement. Mais c'est tout sauf noir, en fait, tes gravures. Comme tu disais tout à l'heure, tu es peut-être une des seules à faire de la manière noire en couleur. Et ça, comment tu l'expliques, ça? Parce que c'est difficile, parce que...
Déjà la couleur, c'est pas comme de la peinture, c'est vraiment des produits un petit peu chimiques qui vont s'oxyder à la surface de la plaque. J'ai beaucoup de difficultés avec les jaunes par exemple, j'essaye de les travailler assez vite parce que si je les frotte trop, j'ai l'impression qu'ils noircissent. Et du coup, ça peut être un frein, ouais, d'avoir des réactions qui vont ternir les couleurs au moment de l'impression. Encore une fois, pour la gravure taille douce, on travaille avec du métal. Les couleurs ont des agents chimiques, minéraux, qui réagissent quand on va les manipuler. Et encore une fois, certaines teintes un peu vives vont noircir. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est peut-être ça qui peut rebuter. Après, il y a peut-être aussi la tradition d'imprimer en noir et blanc quelque chose de monochrome. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Je pense que si l'univers de la gravure est très codifié, et des fois, ça peut être un peu étouffant. Il y a beaucoup de codes à respecter.
Oui, sortir des carcans, et surtout que la gravure, elle a quand même une réputation d'être un peu enclavée dans des rituels ou dans des codes. Et heureusement, il y a la nouvelle génération dont tu fais partie, d'artistes graveurs, et on peut en citer plein. À la galerie, on a la chance d'accueillir pas mal d'artistes graveurs. Cécile Bazec, Caroline Bouillet, Jeanne Pic, Fanny Perret, Naoko Tsurodome.
Ah, les aquatantes.
Emma Kawanago, oui, c'est ça. Et vous êtes toutes, hein, on peut dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en font, parce que ça doit être difficile.
De graveurs.
Oui, non, c'est trop dur pour eux, je pense. Non, c'est pas vrai. d'être la relève de cette discipline qui est si magnifique et si virtuose, il faut pas se décourager, il faut vraiment l'entretenir, parce que dans l'époque justement dans laquelle on vit, on aurait tendance à s'orienter vers des techniques de multiples plus faciles, mais enfin tout est bien, mais la gravure faut la préserver, c'est sûr.
Ça reste un médium.
Eh bien écoute, merci beaucoup Maude, ouais, hyper intéressant.
La beauté sauvera le monde.
Et si je dis l'art est une lecture du monde, ça te parle Maude?
Oui, je suis d'accord. La beauté sauvera le monde.
On compte sur vous. Eh bien, l'heure est venue du tirage de tarot.
Allez,
enfin, d'une carte de tarot. Seule. Je sais que tu connais le tarot de Marseille en plus, donc oui. J'aurais même pas besoin de la décrypter.
Si, je veux bien avoir ta vision des choses.
Bon alors, du coup, c'est l'ancien tarot de Marseille, donc il y a les 22 lames. Il faut que tu les brasses dans le sens inverse des aiguilles du monde pour faire entrer ton fluide. Ah, j'en ai mis un de trop. Après, il faut la couper avec ta main gauche. Tout ça se fait avec la main gauche. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que tu fais, toi.
Je ne fais plus depuis longtemps. Donc. Alors. Alors, tu vois, déjà ça, brasser dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Oui.
Comme ça, hein.
Alors, sur la table, tu sais, tu les...
Tiens, c'est... Ouais, ça, je le faisais pas.
Ouais. Bah, moi, c'est... Tu sais, mon maître, c'était Didier Derlich, mais tu l'as pas connu parce que t'es trop jeune.
Comme ça.
Voilà.
Tu fais ça. Et en fait, avec donc, la main gauche, je vais faire ça.
Tu mélanges tout.
Ouais.
T'as des très jolies mains, Maude. Hein.
Merci.
Ouais, elles sont toutes fines et toutes... Oui. Parce qu'à bercer les plaques, les mains pourraient être un peu abîmées, ou alors toi, on dirait qu'elles n'ont jamais servi. Hein. Oui, elles sont jolies. Voilà. Et voilà.
Et après, comme ça. Et après, je vais juste les distribuer grossièrement.
Voilà, maintenant elles sont face à toi, tu en sors une. Oui. On va dire que c'est une carte d'humeur, tu vois, plus qu'une carte d'avenir. Comme ça, ça relaxe un peu la situation.
Oh là là.
Oh, l'attente, mais non, mais...
Oh là là, j'avais hésité avec celle-là. L'impératrice, ah, c'est mieux fait.
Eh ben, prends l'impératrice, hein. On peut dire que c'est les deux, mais...
Mais non, mais le pendu, c'est...
C'est pas si mal, oui.
C'est encore une fois la souffrance, la résilience.
Non, c'est la patience.
Oui.
Ah, voilà.
Des fois, ça peut être des blocages aussi.
Alors, Maude, oui, on sait pas si on entend bien, mais Maude, elle a sorti le pendu.
Voilà.
Qui est quand même pas une carte sombre, c'est un jeune homme qui est suspendu par les pieds et à l'envers.
Et
qui limite, il sourit, donc c'est la patience, Maude, c'est ce dont tu nous parlais un peu.
Mais je pense que le pendu aussi, c'est dans la version positive, c'est quelqu'un qui a sacrifié des choses et qui a beaucoup de résilience, hein, forcément, puisqu'il a la tête à l'envers et qu'il a l'air assez détendu.
Voilà.
Donc,
Ça te représente un peu, on a dit avant que tu tires que c'était une carte d'humeur et pas une carte d'avenir en plus, on l'a dit.
Oui,
donc
mais il y a aussi le lien, je crois que c'est une carte aussi, le pendu, sur le lien affectif. Et je pense que je suis très liée aux gens qui m'entourent, donc ça peut aussi être ça.
Oui, le lien est très important, peut-être tu peux reprendre. Le lien, c'est très important pour toi, les amis de ton atelier, ta famille, les amis, les attaches, oui.
C'est une figure symbolique qui peut bien me représenter, oui.
Bon, ben voilà, on va rester là-dessus.
J'aurais pu... Mais l'impératrice, c'était trop show-off, tu vois.
Oui, puis l'impératrice, oui, peut-être.
Ah, ça aurait été trop drôle, parce qu'en fait, mon surnom à l'atelier, c'est l'impératrice.
Ah, c'est... Ah, voilà, ça, bon, alors du coup, il faut garder les deux. C'est vrai, l'impératrice. Parce que tu régis ton monde comme ça, avec, mais je suis sûre, avec douceur.
Si tu savais, j'ai aussi des couronnes monoprix en laurier, en fait.
Ah,
des
mais parce que.
À la Jules César, c'est pour ça.
Mais c'est parce que tu gagnes souvent la fève, hein, ou à la galette des rois.
Non,
c'est pas une collection de couronnes.
Mais c'est très rare. Je suis rarement la personne qui. Voilà. Non, non, ça n'explique même pas cette mégalomanie. non, mais donc, du coup, oui, j'ai failli tirer l'impératrice. Et j'hésitais entre deux cartes, et je le dis, puisque c'est mon surnom à l'atelier.
Mais c'est très drôle. Bon, alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ne faire qu'encourager les gens à venir voir cette exposition No Rock.
Oui.
D'après tout ce qu'on s'est dit, moi, il me semble que cette exposition, de manière noire, en couleur, est exceptionnelle, voire unique au monde. Voire dans l'univers.
Alors qu'on vient de dire que j'étais mégalomane avec la couronne de l'impératrice.
Il y a très, très, très peu d'expositions de manière noire en couleur. C'est ce qu'il faut aussi. C'est sur quoi il faut insister, parce que c'est vrai. On n'invente rien en disant ça.
Il y a peu d'expositions de gravure en tant que telle, juste sur ce médium, en tout cas. Et ça peut être l'occasion de venir, de découvrir aussi les autres univers de gravure et de constater que toutes les techniques ont des rendus picturaux et graphiques tellement différents, des univers tellement riches. Ça, c'est mon univers, mais il y en a d'autres à découvrir.
Bien sûr.
Ça peut être une porte d'entrée aussi.
Oui, et du coup aussi de faire une très belle déambulation de gravure en gravure dans les paysages et les maisons de Roumanie.
Et le soleil vient d'apparaître.
Et en plus, voilà, c'est un signe.
C'est magnifique.
Bon, bah, merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup de ton temps. Et le soleil, c'est toi aussi. On peut dire que tu es d'une compagnie vraiment rayonnante et chaleureuse et réconfortante. Merci.
J'ai beaucoup d'émotions.
Oui, nous aussi. Merci beaucoup.
Merci
et puis
encore.
Alors, à ce soir pour le vernissage.
À ce soir.
Au revoir.